Merci Mathieu Laurent. Nous aussi, nous allons faire en quelque sorte un relevé de terrain, puisque nous avons un journaliste autour de la table. C'est une deuxième partie que nous avons pensée en deux volets, avec celle qui aura lieu demain. Demain, nous recevrons l'historien Michel Vinocq, qui a remis vendredi dernier un rapport sur nos institutions et sur les failles de notre démocratie. Aujourd'hui, c'est la situation de l'information qui a aussi maille à partir avec notre démocratie et ses failles. Bonjour à vous, Fabrice Arfi. Et bienvenue à la grande table. Merci. Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous êtes à l'origine des révélations des affaires Bettencourt, Karachi, Takieddine ou encore Cahuzac. Et vous venez ici autour de la table comme co-directeur de deux ouvrages. Je dis co-directeur, mais en fait non, vous êtes directeur de deux ouvrages collectifs. Ce serait plus juste de les présenter comme ça. Le premier s'intitule « Informer n'est pas un délit », sachant que le N et le pas sont barrés en rouge sur les lettres noires. C'est un livre édité par Kalman Levy, dans lequel, avec 15 autres journalistes, parmi lesquels des connus, des moins connus, vous décryptez les censures, les obstacles, les moyens de pression que subissent les journalistes d'investigation lors de leurs enquêtes. Le deuxième s'intitule « La République sur écoute, chronique d'une France sous surveillance ». Il apparaît aux éditions Don Quichotte et il est avec la rédaction de Mediapart, votre journal. Pour dialoguer avec vous, vous interroger à mes côtés, nous avons fait appel à Géraldine Mühlmann. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue Géraldine, vous avez travaillé et écrit sur le journalisme avant même de le pratiquer en radio et en télévision. Vous êtes l'auteur de deux livres qui ont maintenant une petite dizaine d'années, mais les questions sont encore bien actuelles et nous allons le voir tout de suite. Le premier s'intitulait « Du journalisme en démocratie », c'était chez Payot et Rivage. Le deuxième, c'était « Une histoire politique du journalisme au 19e et au 20e siècle », c'était aux éditions PUF. Et vous êtes en train de préparer un livre sur la liberté d'expression, oui, qui devrait sortir au mois de décembre. Alors prenons vos deux livres à vous, Fabrice Arfi, puisque vous êtes notre invité. La République sur écoute, informer n'est pas un délit. On a tout de suite envie de vous demander, ne serait-ce qu'en se référant au titre, parce qu'on sent qu'il ne fait pas bon être journaliste aujourd'hui en France. Pourquoi ces deux livres aujourd'hui? Pour alerter?
Oui, alors il y a un hasard des calendriers, des maisons d'édition qui fait que les deux livres sortent à une semaine d'intervalle et qui, en fait, racontent la même chose. D'une certaine manière, dans deux domaines différents, l'un la liberté d'informer, l'autre ce qu'on appelle la surveillance de masse, la loi renseignement, la NSA, qui sont en fait le récit qu'on a essayé de faire de la manière la plus documentée, sobre et factuelle possible, qui sont le récit d'un culte de l'opacité, d'un culte du secret, d'une défiance, voire parfois d'une haine. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup le mot de la transparence. Je lui préfère le mot qu'on utilisait dans les débats d'assemblée pendant la Révolution française, qui était la publicité, qui a été depuis captée par la valeur marchande. Mais la publicité, c'est ce qui appartient au public.
C'est le terme qu'emploie Jürgen Habermas. Hein,
tout à fait, mais la publicité des débats, la publicité... voilà. Et au regard de ce culte-là et de ces haines-là, en face, des contre-pouvoirs qui sont faibles. Et donc, les deux récits que nous faisons sur cette difficulté de simplement faire son métier de journaliste comme une sorte d'instituteur du réel qui ne succombe pas aux agendas communicationnels des autres, mais qui peuvent avoir leurs agendas et mettre sur la table des informations d'intérêt public qui parfois, oui, sont cachées. Et l'autre, cette surveillance de masse, ce changement de paradigme que nous sommes en train de mettre en place en France de manière assez idiote d'ailleurs, à contre-courant de l'histoire au regard de ce que les Américains ont fait. Ils sont en train de détricoter grâce à qui? Grâce à un lanceur d'alerte, Edward Snowden. Bien oui, il y a de quoi, je crois, sans monter sur la table, mais de quoi s'inquiéter fortement sur ce que veut dire en la matière le mot démocratie aujourd'hui.
C'est plus difficile aujourd'hui de faire son travail de journaliste que ça ne l'a été. Ce que vous rapportez là dans ces deux ouvrages, est-ce que c'est vraiment nouveau, Fabrice Arfi?
Oui, je ne peux pas avoir la prétention ou ne serait-ce que l'expérience pour dire si c'est plus difficile. Moi, je constate ce qu'est mon présent et mon potentiel futur en la matière. Le nôtre, parce que...
Oui,
quand
vous n'êtes pas seul là.
Non, mais non seulement je ne suis pas seul, mais nous les journalistes, on n'est personne. Hein, on est simplement des passeurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que nous racontons. Ça n'est pas une sorte de défense corporatiste, un geste comme ça d'un petit clan de journalistes qui voudrait plaider l'irresponsabilité et dire « laissez-nous faire ce qu'on veut et si possible n'importe quoi ». Ce dont nous parlons, c'est le droit de savoir des citoyens. Donc quand on parle de la loi renseignement, de ses potentielles conséquences sur le journalisme ou dans « Informer n'est pas un délit » de tout ce que nous avons appelé les nouvelles censures, nous racontons un vol des citoyens. Un vol, un braquage culturel, un braquage symbolique. Mais quand on empêche, c'est quelque chose qu'on prend aux citoyens. Parce que tout cela, c'est pas moi qui le dis. C'est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est consacré par l'ONU. C'est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la justice supranationale. La justice au-dessus de la justice française. Alors, nous avons appelé ça les nouvelles censures. Et pour répondre à votre question, parce qu'on a un peu voulu... se différencier de l'idée qu'on pouvait avoir symboliquement de la censure type ORTF, verticale, le gouvernement comme ça. Mais oui, nous sommes aujourd'hui dans un paysage français à la fois institutionnel, à la fois légal, à la fois juridique et judiciaire, à la fois politique, qui entre une concentration historique des médias en France. Historique. 7 milliardaires ont l'immense majorité entre leurs mains de la production journalistique, hors service public, bien sûr, à leur disposition. Une loi, des lois qui ne défendent pas assez la liberté d'informer dans ce pays. Plus des lois adjacentes, celles sur le renseignement, celles qui existent sur le secret défense, celles qui arrivent à l'Europe sur le secret des affaires, plus une culture du secret, un accès aux documents administratifs qui est pitoyable, pathétique en France au regard de ce qui se fait dans d'autres démocraties, alors oui, nous sommes dans un écosystème vicié, pourri, et nous avons tout à reconstruire en la matière. Quand nous sommes sortis de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un texte magnifique, qui a un titre magnifique, qui s'appelait « Les jours heureux ». C'était le programme du Conseil national de la Résistance. Il parlait de la liberté d'informer, il parlait de la liberté de la presse. Ce que préconisait le CNR, les bases sur lesquelles nous nous sommes reconstruits, aujourd'hui, c'est mis à mal.
Géraldine Mühlmann.
Bon, je suis très sympathisante de votre démarche, qui consiste à mettre des yeux partout, où les regards ne sont pas les bienvenus. Je pense que ça fait partie de l'histoire du journalisme moderne que d'aller y voir. Je pense aussi que face à des... Lorsqu'il s'agit de l'État, cette fois-ci, un État qui surveille, je pense effectivement que la seule façon de lui opposer un contre-pouvoir, c'est de le surveiller surveillant, de le surveiller à son tour. De ce point de vue-là, puisque vous citez beaucoup, vous et vos amis, et je comprends très bien que vous le citiez, George Orwell. D'abord, bon, faut pas totalement exagérer, parce que Orwell, c'est quand même quelque chose d'absolument radical qu'il décrit dans 1984. Je n'oublie pas ce qui n'est pas la solution d'Orwell, puisque hélas, le résistant sera mis à mort, mais ce qui est le chemin qu'il ouvre contre un régime qui regarde partout. Il faut un regard. Et d'ailleurs, c'est magnifique. Winston, en 1984, apprend à regarder. Et c'est d'autant plus stupéfiant que tous les autres personnages de 1984 ont des tout petits yeux atrophiés, comme des petits animaux aveugles, explique Orwell dans le texte. Et Winston regarde. Et d'ailleurs, il sera détruit pour avoir regardé. Donc je comprends cela, et tout cela va dans le sens d'un projet démocratique. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, je ne fais pas partie des gens qui ne sont pas d'accord, à savoir, comme le disait Madison, que la presse fait partie, est un des outils, hein, pas le seul, pour jouer un rôle de sentinelle. C'est l'expression de Madison, nous sommes une sentinelle pour le peuple et pour les droits du peuple. Donc je suis sympathisante. Ce qui m'intéresse en même temps dans votre discours et me trouble un peu plus, c'est que moi je pense qu'il y a toujours eu un côté un peu chevalier hein, dans le métier de journaliste, un peu chevalier, même un peu blanc, hein, à dénoncer aussi les collègues qui ne le font pas assez, etc. Mais il ne faudrait pas d'abord considérer que c'est plus difficile que jamais. Ça a toujours été difficile, toujours. Mais je vais ajouter, ça le sera toujours, Fabrice Arfi. Et notamment, j'entends ce que vous dites sur les lois. Mais l'approche légale a franchement ses limites. Vous êtes un contre-pouvoir. Vous êtes un chevalier, Fabrice Arfi, blanc, et pas une oie blanche. Il ne faut pas que les chevaliers blancs deviennent des oies blanches, à croire que des lois puissent leur être véritablement favorables, leur servir les secrets douloureux, qu'ils soient privés ou publics, sur un plateau. Et je sais bien le modèle que vous avez en tête, mais vous voyez qu'il pose les mêmes questions, c'est le modèle américain. Il est vrai qu'à un moment, vous le citez, le premier amendement protège un peu plus les journalistes quand ils veulent montrer des choses compliquées. Ils sont, par exemple, exemple célèbre, les papiers du Pentagone sortis grâce à un lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, en 1971, par le New York Times. Le New York Times n'a pas été condamné alors qu'on lui avait, on avait prononcé une censure de ces documents. Et la Cour suprême a dit c'est d'intérêt public, ce sont des documents sur l'entrée en guerre des États-Unis au Vietnam, ce sont des documents top secrets, mais il est important que le peuple américain le sache et ça fait partie du boulot des journalistes en vertu du Premier Amendement. Mais vous savez bien aujourd'hui que Assange se cache. Alors peut-être qu'il a peur d'un procès. Il y a des gens qui le défendent et qui pensent que même avec le Premier Amendement, il pourrait ne pas avoir un procès trop défavorable aux États-Unis. Mais c'est vrai que, si vous voulez, même un pays comme cela, c'est très compliqué quand vous attentez notamment à ces secrets d'État. Ouais. Et ça ne changera pas. Et des secrets privés, il y aura toujours des gens pour vous embêter, pour enquêter sur... Vous voyez ce que je veux dire ? Ne vous transformez pas en noix blanche. Vous êtes un chevalier blanc, pas une noix blanche.
Il n'a pas l'air d'être un chevalier blanc non plus.
Je ne suis pas un chevalier...
Avec sa barbe noire.
Déjà. Du tout. Et vous dites, ça a toujours été comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Et je vais même permettre de me dire, en fait, je m'en moque si ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'on ne peut pas poser aujourd'hui la question et essayer d'y répondre. Et puis vous dites, ça sera toujours comme ça. Alors moi, je suis pas prophète, c'est-à-dire que je suis pas devin et je ne sais jamais de quoi est fait l'avenir. Et mon boulot, précisément, consiste à essayer de déterminer, ce qui s'est passé, non pas ce qui va se passer. Et vous me dites la loi. N'ayez pas trop confiance dans la loi. Oui et non, c'est-à-dire que nous sommes journalistes, mais nous sommes citoyens. Donc moi, je n'ai aucun problème à penser que ce que nous mettons sur la table permet des réformes pour tous. C'est pas un débat là idéologique, droite ou gauche. La liberté d'informer appartient absolument à tous les citoyens, et c'est précisément pour ça qu'il faut du pluralisme dans la presse et qu'il faut, au-delà de cette expression valise de la liberté d'expression, qui peut concerner aussi l'opinion de chacun. Moi, je lui préfère, pour ce que dont nous parlons, la liberté d'informer. C'est-à-dire, et la loi peut le permettre, mais bien sûr, elle n'est pas seule, la loi. Je ne sacralise pas la loi. Je ne prends la loi que comme un curseur. Mais la liberté d'informer dans une démocratie, c'est la possibilité laissée par les institutions, par les politiques, par le judiciaire, par tout ce qui fait la vie de la cité, qu'il y ait des agents d'intranquillité pour interroger la démocratie tout le temps. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas seulement quelque chose qui se joue au moment du scrutin. Et oui, les journalistes sont des agents de désordre et d'intranquillité, au bon sens du terme.
Ça, je suis entièrement d'accord.
Sans l'appareil institutionnel, sans l'appareil légal, sans l'appareil judiciaire et la jurisprudence, sans l'appareil également culturel, alors oui, nous retombons dans la double pensée de George Orwell et de 1984, je le cite, la force, c'est l'ignorance. Et donc, si nous sommes dans ce monde-là où la force devient l'ignorance, alors les citoyens, tous, de droite, de gauche et d'ailleurs, nous ne pourrons pas décider de notre destinée commune.
Mais Fabrice Arfi, il y a une loi qui vous protège.
Non.
Cette loi de 1881 protège la liberté d'informer.
Oui,
c'est
oui,
pas
mais
parce
non.
que la loi sur le renseignement arrive aujourd'hui, elle est entrée en vigueur il y a quelques jours, oui. depuis samedi dernier, que la loi sur la liberté d'informer va passer en dessous, non ?
Oui, mais non, parce que la loi de 1881, qui est un texte important, qui est un texte subtil, qui est le texte qui fait que nous sommes responsables pénalement devant la loi de ce que nous écrivons, et c'est normal. Je ne demande pas à ce que nous soyons irresponsables. Il est normal que nous, journalistes, nous devions défendre de nos écrits devant la loi si des personnes s'estiment diffamées injustement. C'est bien la moindre des choses. Le problème de la loi de 1881, qui encore une fois, c'est une loi qui est arrivée 90 ans après la Révolution française, qui a été votée massivement par le Parlement français, 444 voix pour, 4 contre, qui est une loi importante qui nous dit que l'imprimerie est libre. Bon, à l'ère du numérique, on pourrait un tout petit peu la modifier, cette loi. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, dans la classe politique, dans le monde industriel, des entreprises, des multinationales, on fait tout pour la contourner. C'est-à-dire que, à Mediapart, par exemple, on passe une grande partie de notre temps à répondre de nos écrits devant des juges, non pas au titre de la loi de 1880, mais d'autres titres. Recel de violation de ceci, recel de vol, faux et usage de faux.
À tort ?
Bien sûr, à tort. Pourquoi ? Parce que cette loi, c'est la loi générique pour la presse. Et quand on la contourne, c'est pour mieux museler la presse. C'est pour donner les moyens légaux aux policiers, aux juges, de violer nos sources. de violer nos sources. Et si nous, journalistes, nous n'avons plus de sources, vous, les citoyens, vous n'avez plus d'informations. Ou alors vous avez l'information officielle, ou alors vous avez le blabla, le bavardage, le discours, le déclaratif qui est partout dans les médias. Mais l'information, c'est autre chose, c'est ce qu'il y a derrière le déclaratif. Et sur le secret des sources, un autre exemple de la loi, nous sommes dans une situation française qui est terrible. C'est-à-dire qu'on nous dit d'un côté, le secret des sources est fondamental, on le dit parce que l'Europe nous impose de le dire, mais on dit de l'autre côté, oui, on peut violer le secret des sources s'il y a, je cite la loi, accrochez-vous, impératif prépondérant d'intérêt public à le faire. Impératif prépondérant d'intérêt public. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Si vous mettez ça entre les mains de pouvoirs malveillants, quand nous révélons l'affaire Cahuzac, vous avez signalé ça tout à l'heure, qui risque de faire trembler un gouvernement, est-ce que ce serait pas un impératif prépondérant d'intérêt public pour venir violer nos sources? Alors oui, nous avons un appareil légal, et ce sont de tout petits exemples qui fait que nous sommes dans un écosystème qui n'est pas au niveau démocratique en la matière. Et je ne sacralise pas les États-Unis. Les États-Unis ont des vertus, il faut les prendre, ils ont des défauts, il faut les laisser. Nous avons l'exemple belge, nous avons l'exemple
supralégal
plus fort, nous avons l'exemple suédois, l'exemple allemand. Moi, je suis pour qu'on prenne ce qu'il y a de bien partout.
Alors justement,
Charles Nulman,
sans sacraliser les États-Unis, tout en reconnaissant qu'ils ont un régime unique au monde pour la liberté d'expression.
Tout à fait.
Vous touchez là à un autre point que celui de la liberté d'expression. Et effectivement, la loi de 1881, vous l'expliquez très bien, est contournée. Parce que souvent, on sait qu'on ne va pas vous attaquer pour diffamation ou pour injure. Là, on est dans le régime de la loi de 1881. On va vous attaquer sur vos méthodes pour obtenir un certain nombre de documents. On sait comment ça marche. C'est là où je dis, il faut pas être une oie blanche. On pourra obtenir des documents, on doit faire un certain nombre de choses. Bon, et c'est là-dessus qu'on vous attaque.
Quelle chose ?
Alors moi, il peut arriver qu'on ait à voler. Vous savez, on va se parler clairement. Moi, je pense que votre métier, historiquement, c'est d'ailleurs sa grande mythologie, a quelque chose à voir avec la figure du voyou. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, les grands compliments, justement, pour les grands reporters d'investigation, frisent l'insulte. Muckrakers, fouille merde. Ce sont des gens qui... Il y a quelque chose d'impur dans la figure du journaliste. C'est un peu la guerre. Bon, et donc moi, je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il faut assumer que de temps en temps, dans certaines méthodes, on est à la limite de la légalité, parce que la légalité ne va pas faire des lois spéciales pour vous disant que le vol est interdit pour toute la population, sauf pour les journalistes, parce qu'ils ont une carte de presse. Vous comprenez, c'est pas possible.
Moi, je vois très bien ce que vous voulez dire, et vous rejoignez en cela cette phrase que j'adore de Pierre Nora, qui dit que le journalisme consiste à vendre la mèche, y compris en se brûlant les doigts.
Et en protégeant ses sources, soi-même, pas avec la loi.
Attention, nous ne volons rien. Nous ne voulons rien.
Ça peut vous arriver, alors c'est pas moi qui vais vous le reprocher.
Non, attention. Oui, notre boulot consiste à diffuser des informations ou des documents que nous avons obtenus auprès de gens qui, eux, sont tenus professionnellement, juridiquement, de ne pas les divulguer. Mais quand il y a les enregistrements Bettencourt, c'est pas nous qui commanditons les enregistrements Bettencourt. D'accord. Quand on a des documents secrets défense et que nous les publions, c'est pas nous qui allons les chercher dans les armoires de la DGSE. Le problème, c'est que l'on considère le journaliste légalement en France comme le potentiel receleur d'un délit. Oui. Et si on considère que le journaliste est le receleur d'un éventuel délit commis par un autre, alors cela veut dire que nous considérons que le journalisme ne doit être que le miroir du journal officiel.
Il n'y a pas que cela, et vous l'avez dit vous-même dans le jugement en première instance sur l'affaire Bettencourt, le juge a reconnu que les documents pouvaient être d'un intérêt public sur la question des impôts payé ou pas payé par une des fortunes les plus grandes de France. Donc c'est pas vrai. Cette idée existe aussi dans l'évaluation de votre recel. Est-ce que c'est pour l'intérêt public ?
Il y a tellement pas de recel qu'aujourd'hui, dans les cartons du ministère de la Justice, il y a une nouvelle loi sur la presse que M. Urvoas, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui est celui qui fait passer en urgence la loi renseignement, renvoie au calende grec la loi sur la presse. Hein, l'esprit de janvier, on ne sait plus très bien où il est en la matière. Cette loi dit quoi ? Ils ont pris conscience à la chancellerie. Cette loi dit les journalistes ne devraient plus être opposables du délit de recel. Parce que si on commence à être opposable à ce délit, alors c'est consacrer l'idée, je le redis, que les journalistes ne doivent être que les courroies de transmission de la parole officielle. Mais encore une fois, moi je ne vole rien. Ce que je publie, ce sont des informations. Et c'est le contenu des informations qui est important. Alors oui, je crois très fort qu'il faut faire bouger la loi en la matière, si on veut une sécurité pour accepter l'intranquillité du journaliste.
le fond du problème. Vous faites du mal au pouvoir et c'est un pouvoir législatif qui fait la loi. Ne l'oubliez jamais.
Mais c'est la force de la démocratie d'être, comme disait Claude Lefort, ce régime tragique. C'est-à-dire que le monde politique doit accepter que la démocratie, c'est un régime qu'on peut provoquer, qu'on peut interroger. C'est ça la différence entre la démocratie et le reste. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme nous le dit depuis 1976, arrêt célèbre, Handicide, qui dit que la presse doit et peut choquer les États et des fractions de la population. Mais oui, mais c'est pour ça que...
Mais ne soyez pas trop naïfs.
Mais c'est pas de la naïveté.
Il y aura toujours du pouvoir et il y aura toujours besoin de moyens un peu limites pour aller chercher des infos.
Mais vous pouvez pas dire que les gens qui veulent que ça change sont des naïfs. Ce sont simplement des gens qui essayent de se battre pour une certaine idée du bien public.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Et nous parlons du journalisme en démocratie aujourd'hui avec le journaliste à Mediapart Fabrice Arfi pour l'interroger, dialoguer, on l'entend bien, avec lui, le titiller volontairement et avec bienveillance Géraldine Mühlmann. Géraldine Mühlmann qui a travaillé elle-même sur le journalisme en démocratie. Il y a une phrase que répète Edoui Plenel, votre rédacteur en chef à Mediapart, que répète Edoui Plenel à l'envi, c'est une phrase d'Albert Londres, bien entendu, oui. Fabrice Arfi, que je cite dans son intégralité. Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Ce qui rejoint un peu ce que vous dit Géraldine Mühlmann. Est-ce que cette phrase-là, vous la revendiquez, vous et les 15 autres avec qui vous signez cette phrase ?
J'ose espérer.
Et qu'est-ce qu'elle veut dire derrière ?
Qu'il n'y a pas un journaliste en France qui ne puisse pas revendiquer la fulgurance de cette phrase. Et bien sûr que ça rejoint ce que dit Géraldine Mühlmann. Et encore une fois, je ne demande pas à ce que nous ayons un État qui fasse des journalistes cherchent des infos. Mais bien sûr que nous ne sommes pas des enfants de cœur quand on vient chroniquer ce réel qui fait que nous sommes dans un monde si bizarre, si violent, si injuste, bien entendu. Et c'est précisément cela, c'est pour ça qu'il y a un enjeu institutionnel, politique, législatif, à considérer que oui, le journalisme consiste parfois, souvent, si ce n'est tout le temps, à tremper cette plume dans la plaie. C'est ça que j'appelle, de mon point de vue, l'intranquillité. Et ce que je vois, moi, en regard, c'est une classe politique qui s'en fout.
C'est peut-être ça qui est nouveau, cette indifférence politique.
Qui n'a aucune espèce de conscience, en tout cas, ne serait-ce que de façade, que la liberté d'informer, c'est important en démocratie. Ils s'en foutent. Nous chroniquons depuis plusieurs semaines à Mediapart la prise de pouvoir de Monsieur Bolloré à Canal+, qui est une prise de pouvoir qui se fait notamment sur l'autel de la censure. Notamment la censure d'un documentaire sur le Crédit Mutuel, soupçonné comme ses cousines HSBC en Angleterre ou UBS en Suisse d'avoir organisé un système offshore pour faire fuir les capitaux vers l'étranger, illégalement, de riches clients français. Bon, il se trouve que le Crédit Mutuel, c'est la banque historique du groupe Bolloré. Monsieur Bolloré a personnellement censuré en mai dernier, d'un coup de fil, le documentaire qui devait être diffusé sur Canal+.
L'annoncez ou vous savez pourquoi vous annoncez ça comme ça ?
Non, je le
vous
sais.
Vous avez des informations qui accréditent le fait qu'il a censuré.
Oui, enfin, d'ailleurs, et par ailleurs, ça n'a jamais été démenti par aucun des acteurs en la matière. Mais ça va même plus loin, puisque ce matin, dans Mediapart, nous révélons un document interne de Canal+, dans lequel la direction assume la censure, en disant, notre intérêt, c'est de défendre les intérêts du groupe et on veut éviter ce type d'enquête. C'est-à-dire qu'on théorise l'esprit de la censure. Bon, on y est, c'est documenté, c'est noir sur blanc. Est-ce que vous avez vu une seule réaction, un seul bout de tweet d'un homme ou d'une femme politique, du Parlement, au gouvernement, pour dire « mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays de ce point de vue-là » Le CSA, on attend l'autorité de régulation en la matière, qui éventuellement ils vont faire quelque chose, on ne sait pas. Voilà l'écosystème, voilà le déficit culturel, qui est par un tout petit exemple français, face à ce que nous devons, on doit se battre pour la défendre, la liberté d'informer, qui n'est pas un privilège de journaliste, encore une fois, qui est un droit de citoyen.
il y a quelque chose qui n'est pas dans votre ouvrage, en tous les cas dans Informer n'est pas un délit, où vous parlez quand même beaucoup de censure, des pressions économiques, des pressions fortes, c'est la question de l'auto-censure.
Oui, et c'est un grand regret. En fait, nous avons deux grands regrets que j'espère combler peut-être s'il y aura un tome 2 de ce livre, puisque beaucoup de nouvelles histoires m'arrivent depuis quelques jours. Le premier grand regret, c'est l'absence d'Édouard Perrin, ce journaliste de Cache Investigation qui avait révélé l'affaire LuxLeaks, et qui, pour des raisons légales, ne peut pas écrire dessus. Dans le livre, il est poursuivi au Luxembourg et le lanceur d'alerte aussi. Il risque la prison ferme. C'est les seules personnes potentiellement sanctionnées dans cette histoire pour avoir simplement révélé comment le Luxembourg, sous l'autorité de l'ancien Premier ministre Monsieur Juncker, qui est aujourd'hui le patron de la Commission européenne, a organisé avec des lois d'optimisation fiscale vertigineuses l'appauvrissement de tous les pays européens, avec des manques à gagner pour les budgets de la nation de 15 à 20% pour certains pays. Donc c'est absolument démentiel en ce qui concerne les multinationales. J'espère que Édouard pourra raconter dans le détail cette histoire. Et l'autre histoire, ça répond directement à votre question, il devait y avoir un chapitre sur l'autocensure dans le livre, qui est la pire des censures, parce que l'écosystème dont je parle, ce déficit culturel, institutionnel, judiciaire, politique, crée cela, crée les conditions de la pire des censures, qui est la censure intime, la censure avant la censure, où vous-même vous devancez les désirs du censeur. Et ce chapitre devait être fait par quelqu'un, et nous avons regardé avec elle d'un point de vue légal, encore une fois, notamment au regard du droit du travail, si la personne pouvait le faire, elle risquait le licenciement. Donc elle n'a pas pu faire ce témoignage. Mais bien sûr que à Canal+, que dans un certain nombre de médias, ou quand les intérêts privés de l'industriel qui dirige le média, dont le cœur d'activité n'est pas l'information. Moi, je suis pas contre les industriels, je suis pas contre les milliardaires. Par contre, je suis contre ce phénomène de concentration qui fait qu'entre les mains de 7 milliardaires, dont le cœur d'activité est de vendre des armes, de faire de la téléphonie mobile, de faire de la banque, pour Monsieur Bolloré de faire un peu tout, de faire du BTP comme Monsieur Bouygues, et aussi d'avoir des bonnes relations avec l'État français pour son business, voire avec les États étrangers, parfois les plus corrompus et les moins démocratiques. C'est, dans les sept dont je parle, il y a cela. Eh bien oui, ça crée un écosystème qui est terrible pour la liberté d'informer. Encore une fois, ça n'est pas pour rien que le Conseil national de la résistance, dans son programme Les Jours Heureux, nous avait mis en garde en disant attention aux puissances de l'argent derrière la presse. Parce que c'est ce que Boeuf Méry disait aussi quand il a créé Le Monde et d'autres. Et cette ère-là, cette époque-là, cette promesse-là, aujourd'hui, n'est plus au rendez-vous.
Charlie Milman.
Je partage votre diagnostic, hein, le fait que ce soit très très dur de dire un certain nombre de choses et que c'est d'autant plus dur qu'il y a des intérêts net au sein même de l'économie des médias. Donc, aucun doute que je suis sur le même diagnostic que vous. Encore une fois, en un sens, c'est pire pour moi que pour vous. C'est-à-dire que moi, je crois que ce rapport de force profondément conflictuel, il demeure toujours. Et je ne suis pas sûre que quelques outils légaux supplémentaires vous aident à le dépasser. D'abord, je voudrais quand même dire la question du vrai risque légal, c'est moins les journalistes qui le prennent que les lanceurs d'alerte. Et donc, il faut quand même dire que les vrais risques, et je dirais que ça rend, les vrais risques sont pris par ceux
qui, de
l'intérieur. En même temps,
quand on lit certains témoignages, par exemple, de Fabrice Lhomme et de Gérard Davet dans Le Monde, qui
vivent sous protection policière,
des menaces physiques et plus que cela, hein, des petits cercueils et autres.
Oui, avec les noms de leurs enfants.
Voilà. Les menaces sont réelles.
Ils ont aussi des menaces. Mais ce que je veux dire, puisque vous, alors c'était le deuxième point que je voulais évoquer, justement, j'ai lu aussi cet article de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, il y a un moment, bon, ils défendent comme vous le secret des sources avec une meilleure loi que celle qu'on avait jusqu'à présent, bon, qui avait plein de problèmes. Moi, j'entends très bien cela, c'est l'idée qu'on soit protégé dans son enquête et que personne ne vienne, notamment pas l'exécutif, et là je vous partage entièrement, lancer des enquêtes impunément sur les sources des journalistes. Bon, en plus, normalement, les journalistes sont censés les protéger. On n'est pas sûr que l'exécutif ait la même déontologie. Donc, c'est très compliqué. Cela dit, il y aura toujours des écoutes judiciaires. Ça, je vois pas comment vous l'empêcherez lorsqu'il y a une affaire et qu'un juge d'instruction puisse lancer une écoute. À moins que vous vouliez un truc statutaire pour les journalistes. Mais là, vous m'aurez contre moi. Je ne suis pas pour que les journalistes aient un statut spécial dans la société. Je crois que la liberté d'informer, beaucoup de gens l'ont. Et pas seulement, c'est pas une carte de presse, un truc corporatiste qui va décider qui est journaliste et qui n'est pas. Donc ça me dérange. Et deuxièmement, dans cet article, ils disent très bien une chose. À un moment donné, ce sont des journalistes, en tout cas des gens qui avaient une carte de presse, à commencer par un photographe, qui se sont mis à enquêter sur eux. Mais vous savez, cette situation, elle est inévitable. Celui qui enquête sur tout le monde, eh bien, on enquêtera sur lui. Et je ne vois pas, sur le plan des principes, comment on peut l'en empêcher, surtout quand c'est fait, puisque vous avez l'air de croire au statut, par des gens de la profession. Je crois qu'il y a une limite à toute loi sur la protection des sources. Je ne suis pas hostile, mais c'est la même remarque depuis le début. Attention, n'en demandez pas trop à la loi. Il y a, je dirais, consubstantiel à votre métier, une prise de risque, un flirt avec l'immoralité et l'illégalité. Il faut le savoir et il faut l'assumer un peu plus, je trouve.
Fabrice Arfi.
Vous êtes une joyeuse défaitiste et moi je suis un sombre optimiste. Voilà. Je ne me résoudrai jamais à votre fatalité de dire que ça ne sert à rien d'essayer de faire changer les choses parce que les choses seront toujours ainsi. Sur les industriels et le pouvoir des industriels et ce que ça peut créer en termes d'autocensure. Oui, je crois qu'il peut y avoir des lois anti-concentration dans les médias. Ça coûte rien à faire.
Oui,
mais s'il y a des lois anti-concentration, des lois anti-concentration, je pense que Monsieur Bolloré, Monsieur Drahi, Monsieur Niel, Monsieur Bernard Arnault, Monsieur Martin Bouygues, Monsieur Serge Dassault, Monsieur Lagardère, ça posera quelques problèmes pour avoir entre les mains l'immense majorité de la production journalistique. Sous leur autorité, en tout cas sous l'autorité de leur capital. Première chose. Sur le secret des sources, encore une fois, le secret des sources, c'est pas pour les journalistes. Hein. Attention, hein, on se trompe beaucoup sur le secret des sources. Ce qui est important dans le secret des sources, c'est le mot source. Le secret des sources, c'est la liberté donnée à chacun dans une démocratie, à chacun, qu'il soit syndicaliste, chef d'entreprise, agent secret, pharmacien, éboueur, peu importe, de venir un jour alerter la presse concernant des informations qu'il estime d'intérêt public, avec des bonnes ou des mauvaises intentions d'ailleurs, hein, évidemment, avec des bonnes ou des mauvaises intentions. Et c'est à nous, journalistes, si nous avons vérifié, si c'est d'intérêt public, alors après il y a un débat, qu'est-ce que c'est l'intérêt public, mais bon, là il y a des curseurs sociaux qui bougent avec le temps, et c'est à nous ensuite d'assumer devant la justice le secret de ces personnes qui ont pris des risques, et là je vous rejoins, bien entendu, moi je ne défends pas les journalistes par esprit corporatiste, j'en ai vraiment que faire, c'est que je défends l'idée qu'il faut protéger les gens qui prennent des risques, y compris parfois vis-à-vis de leur famille, de leur santé, de leur cursus professionnel, notre quotidien à Mediapart est semé de rencontres avec des gens qui sont détruits parce qu'ils ont juste essayé d'informer le public. Donc, bien entendu, encore une fois, je pense qu'il faut se battre pour faire changer la culture politique et si possible, les règlements et la loi pour avoir une meilleure défense de la liberté d'informer.
Vous avez commencé de répondre à la question que je voulais vous poser, Fabrice Arfi, puisque vous en appelez à une loi anti-concentration déjà, en vous disant que la loi pourrait quand même changer les choses et dans votre sens, mais aussi sur cette culture politique. Ça veut dire aussi que vous espérez que la culture démocratique de ce pays puisse s'améliorer, mais alors là, comment fait-on ?
On a un peu plus confiance dans le journalisme, un peu moins de défiance vis-à-vis de ce qu'il peut représenter en France. Je vous donne un exemple par rapport à Monsieur Bolloré. L'actuelle ministre de la Culture, Madame Fleur Pellerin, était sur l'antenne de France Inter la semaine dernière. Le collectif Informé n'est pas un délit la sollicite depuis plusieurs semaines pour la rencontrer et parler justement de la situation de Canal+. Bon, elle n'a pas eu le temps de nous rencontrer. En revanche, elle avait eu le temps d'avoir Monsieur Bolloré au téléphone et donc elle est allée à la radio pour dire concernant la censure sur le documentaire du Crédit Mutuel dont nous parlions tout à l'heure, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'enquête qui le démontre, donc Monsieur Bolloré, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Voilà. Voilà la culture politique. Voilà la culture politique. C'est-à-dire
qu'on fait pour la changer ?
Qu'est-ce qu'on fait pour la changer ? Ben, je sais pas, on sensibilise le monde politique.
Ça fait trois fois que vous le dites. Ouais. Les gens ? Parce que moi, je vous fais vraiment confiance à ceux qui font la loi et aux politiques. Justement, moi, en un sens, j'ai une vision de la démocratie plus par le bas.
Mais bien sûr,
c'est les gens qui mettent la pression sur les gouvernements.
Mais bien sûr, c'est pour ça que nous écrivons des livres et que nous faisons des articles. Moi, j'écris pas pour la politique et je ne cherche pas ma légitimité dans les yeux du pouvoir. Mais c'est précisément pour ça, c'est pour qu'il y ait des lecteurs et que par, j'espère, non pas le succès commercial, mais le succès du discours, du propos, de la conversation, une pression. Et là, je vous rejoins totalement, une pression citoyenne fasse comprendre que les politiques n'ont pas d'autre choix que de considérer que l'information en démocratie, c'est un bien fondamental.
How many roads must a man walk? you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she can sleep in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind.
Chanson de Bob Dylan, reprise par Rodolphe Burger. C'est votre choix musical, Fabrice Arfi?
Oui, parce que j'adore Rodolphe Burger, primo. Et secondo, parce que j'adore les reprises. Et tertio, parce que j'aimerais que ce qu'on essaye de se dire depuis tout à l'heure ne soit pas des propos dans le vent concernant Bob Dylan. Et pour reprendre un autre titre de célèbre songwriter américain, il est temps que les temps changent.
Merci beaucoup Fabrice Arfi. Informer n'est pas un délit. Ensemble contre les nouvelles censures, c'est chez Calman Lévy. La République sur écoute, chronique d'une France sous surveillance, c'est aux éditions Don Quichotte. Merci beaucoup Géraldine
Merci
Neumann.
Merci à vous deux.
Aujourd'hui, à la technique, c'était Marie-Laure. Pas à la technique, à la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet. Et à la technique, c'était Bruno Gagnère-Fontanille.